Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Traque des groupes armés dans la localité de Logo et ses environs en Ituri. Un échange des tirs s'en est suivi avec l'armée. Bilan provisoire, 3 morts dont un soldat FARDC. L'insécurité prend de l'ampleur à Kananga. Malgré le mémorandum des prêtres au gouverneur du Kassai central, rien que la nuit dernière, 3 cas de vol à main armée ont été enregistrés avec des blessés par balle. Et puis, situation sécuritaire à Djougou. Le sujet a fait l'objet d'une conférence de presse des parlementaires de l'Ituri. Le député John Tibassima, l'un de leurs représentants, est notre invité ce soir. Madame, messieurs, bonsoir. L'actualité reste marquée par ces nouveaux combats signalés hier entre des soldats FARDC et des assaillants dans la localité de Logo et sa périphérie. Nous sommes à environ 80 km à l'est de Bounia, territoire des Djougou dans l'Ituri. Selon le porte-parole des FARDC dans cette province, les forces loyalistes ont lancé une offensive pour reconquérir les zones qui étaient occupées par ces hommes armés. Le bilan provisoire fait état de 3 morts, dont 2 miliciens et un soldat FARDC. Le lieutenant Jules Ngongo est joint par Jean-Claude Loki.
Pays Logo, c'est autour du lac Albert. Nous sommes allés reconquérir en fait quelques villages qui étaient proches de ces incidiques après avoir eu des combats le mois dernier avec la force navale. Et nous avons lancé les offensives de l'autre côté pour libérer, pacifier totalement tout au long du lac. Il y a eu échange de tirs, donc 2 miliciens ont été neutralisés et les mains FARDC tombées sur le champ d'honneur. Il y a des chances de tir, les balles ne choisissent pas. Il est tombé dans le champ d'honneur pendant qu'il y avait ces opérations. On le poursuivait, il y a eu accrochage, et voilà, le professionnalisme a joué, 2 miliciens ont été neutralisés.
Et justement, à propos des violences dans le territoire des Djougou, les députés nationaux des différentes tendances politiques appellent à une conjugaison d'efforts pour mettre fin à cette situation. Ils l'ont dit hier dans une conférence de presse à Bounia après une journée d'évaluation de la situation sécuritaire dans cette entité. Ces élus saluent l'engagement du gouvernement central dans la résolution de cette crise. Cependant, ils sèchent leur participation à l'ouverture de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale tant que la sécurité n'est pas rétablie à Djougou. Reportage de Martial.
Les députés ne sont pas allés par 4 chemins. Pour eux, la situation d'Ndjougou est un drame humanitaire caractérisé par des tueries, destruction des infrastructures et déplacement des populations. Ils encouragent la population de l'Ituri à rester unie pour barrer la route à toute personne qui veut créer la division entre les ethnies pour faire croire à un conflit identitaire. L'honorable John Tibassima.
Les filles et fils de l'Ituri ne sont pas un seul instant tombés dans le piège de la haine interpersonnelle, encore moins interethnique, raccourci que d'aucuns auraient souhaité les voir emprunter, afin de les diviser, de les opposer les uns aux autres, comme dans un passé récent.
Ces députés renouvellent leur confiance aux forces de l'ordre qui sont massivement déployées en Djougou pour combattre les assaillants. Ils encouragent les vice-premiers ministres de l'Intérieur qui séjournent à Bounia à multiplier les efforts pour éradiquer ces massacres. John Tibassima.
Nous tenons à exprimer notre gratitude, notre soutien et notre encouragement à nos vaillants policiers et éléments de FARDC dans la lourde responsabilité qui leur incombe, à savoir la restauration de la paix et la sécurisation en territoire de Djougou.
Entre-temps, ces parlementaires s'interdisent d'être à l'ouverture de la session ordinaire de mars pour exiger le rétablissement de la paix en Djougou. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Notez à ce sujet que le député John Tibassima est notre invité à suivre en seconde partie de cette édition. Du côté du Nord Kivu, des violents affrontements entre FARDC et présumés ADF ont été signalés hier à une dizaine de kilomètres au nord-est de Beniville sur l'axe routier et Beni Kassindi. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, 2 assaillants et 3 civils ont été tués au cours de cette attaque de rebelles repoussée par les FARDC. Le capitaine Makazukai annonce que la route Beni Kassindi est déjà rouverte à la circulation et les corps de ces 2 présumés ADF sont exposés par l'armée depuis ce matin devant la mairie de Beni. Écoutez le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord au micro de Martial Papimukeba.
L'ennemi que nous sommes en train de traquer en profondeur cherche à traverser la haute pour se diriger vers le sud. Et c'est lors de cette manœuvre que nos militaires qui étaient en patrouille l'ont croisé. Et après l'échange de tirs, nous avons réussi à neutraliser deux, dont une femme. Malheureusement, l'ennemi avait déjà atteint la route du côté du pont Semoliki et il a tué des paisibles citoyens. 3 civils ont été tués. Nous avons déjà ouvert la route. Beni Kassindi, le trafic a repris. Le renfort qui a été dépêché par le gendarme Bango Machita Marcel a réussi à traiter correctement l'ennemi. Et le fruit, c'est les deux corps que nous avons amenés ce matin à la mairie. Ces bandits ont tué encore des innocents. Et les militaires ont tenu à venger des innocents. Et il fallait exceptionnellement extraire ce corps-là et les exposer à la mairie pour que les gens voient les gens qui sont en train d'insécuriser Beni et ses environs.
Et à propos de la fermeture du camp de transit des ex-combattants rwandais FDLR à Kanyabayonga, au sud de Lubero dans le Nord Kivu, le gouvernement congolais, par la bouche de son porte-parole, parle de décisions non négociables, mais ces ex-combattants FDLR exigent d'abord la tenue d'un dialogue inter-rwandais avant leur retour volontaire. Jeudi dernier, une délégation du gouvernement congolais était à Kanyabayonga pour les informer de la fermeture de ce camp géré par la MONUSCO. Gisèle Cage nous fait le point.
Un dialogue inter-rwandais, c'est ce qu'exigent les 372 ex-combattants FDLR et leurs dépendants, hébergés depuis 3 ans dans le camp de transit de Kanyabayonga avant leur retour au Rwanda. Mais pour le gouvernement congolais, rien de tel n'avait été promis. La RDC ne servira pas d'arrière-base de revendication contre un autre pays. Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu.
Nulle part, il n'avait été convenu qu'il y aurait un dialogue inter-rwandais qui serait à la base de cette démobilisation. À ces ex-combattants rwandais, c'est d'abord de rentrer chez eux au Rwanda et à l'intérieur créer une dynamique de dialogue. Ne pensez que dans la région des Grands Lacs, il y a un pays qui va servir de base arrière, de revendication pour faire un front contre notre pays. Ces époques sont largement dépassées. Nous sommes déterminés à faire la paix entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda pour que désormais nous parlions un langage de développement et non un langage de guerre.
La décision du gouvernement congolais n'est pas négociable, a dit Lambert Mende. Et si ces ex-combattants insistent sur leur volonté de ne pas retourner au Rwanda sans dialogue préalable, le gouvernement prendra ses dispositions, selon Julien Paluku. Quant à la MONUSCO, elle dit que son dispositif d'accompagnement de ces ex-combattants pour un retour volontaire chez eux est toujours disponible. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, à Kananga, 3 cas de vol armé ont été enregistrés la nuit dernière. 2 ont eu lieu dans la commune de Kananga et le 3e a été signalé à Lukonga. Dans les 3 cas, des témoins accusent des personnes habillées en tenue militaire et portant des armes. Le maire de la ville affirme que les autorités multiplient les initiatives pour mettre fin à l'insécurité dans sa juridiction. Joël Bofengo nous en parle.
Le premier incident a eu lieu vers 20h au centre-ville de Kananga. Des témoins rapportent qu'un groupe de personnes habillées en uniforme de l'armée et armées de fusils a attaqué un homme qui réalise des opérations de transfert d'argent par téléphone. La personne a été blessée par balle. Elle est actuellement soignée dans un hôpital de la ville. Suivez son témoignage.
On a tiré 4 balles. Il y a 2 balles qui m'ont percé dans ma cuisse droite et les autres sont passés à côté. Ils étaient 8 à 7 comme ça. Il a récupéré les sacs que j'avais avec l'argent à l'intérieur avec mes téléphones.
Dans la même commune de Kananga, un autre vol a été perpétré au quartier Chisambi. Une 12aine de personnes habillées également en tenue militaire se sont introduites dans une maison où elles ont emporté tous les biens dans une moto avant de repartir à pied. Au cours de la même nuit, au quartier Mulunda, dans la commune de Lukonga, des hommes armés sont entrés dans 2 maisons et ont emporté tous les objets de valeur. Le maire de Kananga que nous avons interrogé affirme que les autorités prennent des mesures pour mieux sécuriser la ville, citant notamment l'augmentation des policiers qui font des patrouilles. Mais il invite les habitants à dénoncer les potentiels bandits qui sont dans leur voisinage. Il y a quelques jours, les prêtres catholiques de la ville de Kananga ont adressé un mémorandum au gouverneur du Kasaï central pour dénoncer l'insécurité qui prévaut dans cette ville. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
En justice, notez la poursuite d'instruction au procès des présumés assaillants de Kamuina Nsapu. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe a déjà instruit la cause de 26 prévenus sur les 36 à la prison militaire de Ndolo au cours des audiences précédentes consistant à la production des preuves par le ministère public de tous les prévenus appelés à la barre. Aucun n'a reconnu les faits mis à sa charge. Ils comparaissent selon les cas, notamment pour association des malfaiteurs, meurtres, assassinats, détention illégale d'armes de guerre et mouvements insurrectionnels. Le tribunal va poursuivre les audiences demain jeudi. La crise humanitaire en RDC est importante. Il faut agir vite et ensemble pour venir en aide à quelques 13 millions de Congolais dans le besoin. C'est à la fois un constat et un message du secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires devant la presse hier à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. C'était à l'issue d'une mission de 2 jours en RDC. Marc Laocoq annonce par ailleurs la tenue en avril prochain d'une conférence de haut niveau sur la crise humanitaire en RDC. Jean-Pierre Elali pour le reportage.
Nous sommes témoins du pire de la souffrance humaine dans une des plus grandes et tragiques crises humanitaires du monde.
Ce sont là les propos du secrétaire général adjoint Marc Laocoq devant la presse hier mardi à l'aéroport international d'Njili. Après sa visite à Kalemie dans le Tanganyika, le chef de l'humanitaire aux Nations Unies n'a pas caché son exaspération devant les conditions de vie horribles des personnes victimes de l'insécurité due au conflit. Il faut, selon lui, agir vite et ensemble pour venir en aide à quelques 13 millions de Congolais dans le besoin. Une façon de parer au plus pressé, c'est l'annonce faite par M. Laocoq dans la foulée d'une conférence de haut niveau en avril prochain à Genève. Objectif, faire un plaidoyer afin de mobiliser 1,7 milliard de dollars pour juguler la crise humanitaire en RDC. Quel est alors l'engagement des autorités congolaises dans ces combats, M. Laocoq?
Le gouvernement a déclaré qu'il allouerait plus d'argent à l'aide humanitaire. Ils ont accepté de réviser la procédure de délivrance de visa pour les travailleurs humanitaires.
Pour la ministre du Commerce extérieur des Pays-Bas, Mme Sigrid Kaag, qui a fait partie de la délégation, il faut agir maintenant.
Il faut agir maintenant pour prévenir le pire qui ne devrait pas se passer.
Après la conférence de presse, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et sa délégation se sont aussitôt envolés pour New York.
Répression des marches du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018, la MONUSCO affirme que son soutien et son expertise sont disponibles pour faciliter la mise en œuvre des recommandations issues des travaux de la commission d'enquête conjointe. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la mission onusienne ce mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire de l'ONU à Kinshasa. Florence Marchal dans ses propos recueillis par Honoré Missienga.
Nous avions salué la mise en place de la commission d'enquête conjointe composée de représentants du gouvernement, de la Commission nationale des droits de l'homme et de la société civile sur les allégations de violations de droits de l'homme commises lors des manifestations du 31 décembre et du 21 janvier. La MONUSCO a apporté un appui technique au fonctionnement de cette commission d'enquête et nous avons accueilli avec satisfaction les recommandations rendues publiques le 10 mars dernier, parmi lesquelles l'appel à des enquêtes judiciaires, la levée de l'interdiction générale de manifester ou le non-recours aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la garde républicaine dans la gestion des foules. Ces recommandations recoupent certaines que nous avions déjà formulées et la MONUSCO est prête à apporter le soutien et l'expertise nécessaires à la mise en œuvre de ces recommandations.
Et sachez que la levée du corps de l'activiste Rossi Mukendi, tué lors des manifestations du 25 février dernier, sont reportées à une date ultérieure. Elle n'aura donc plus lieu demain, jeudi 15 mars, comme initialement prévu. Et pour cause, l'auditorat militaire de garnison de Matete exige une seconde autopsie. Du coup, la famille du défunt n'a pas accès au corps pour organiser les obsèques. Cap sur le Bazouélé, le président de l'Assemblée provinciale s'inquiète de la suspension prolongée des activités de l'organe délibérant par le ministère de l'Intérieur. Cette institution est fermée depuis 2 semaines au motif de préserver l'ordre public. Selon Michel Guillot, président de l'Assemblée provinciale du Bazouélé, la police qui est déployée au sein de cette institution ne leur permet pas de travailler alors qu'il faut déjà préparer la rentrée parlementaire prévue le 30 mars prochain. Au téléphone de Jacques Moukonkolé, il déplore cet état de choses.
Aucun service au sein de l'organe délibérant ne fonctionne pour le moment. Tout est bloqué. Même nous n'avons même pas accès à mettre les pieds là-bas. Si vous voulez accéder là-bas, on vous tend donc les canons. Et si vous arrivez ici, on va vous tirer sur vous. Voilà des intimidations. D'ici le 30 mars, nous devons donc maintenant convoquer la session donc ordinaire de mars qui va aller jusqu'au mois de juin. Maintenant, nous ne nous organisons même pas. Et les services administratifs minimum que nous avons ne fonctionnent pas. Tout est une institution de l'État. Mais c'est quelle démocratie que nous avons dans ce pays? C'est quelle démocratie? Et c'est la démocratie dit que donc si l'organe délibérant joue son rôle, qu'on fait ceci. Non, ce n'est pas ça.
Monsieur le Président, si la police a été déployée, c'est pour restaurer l'ordre public.
Nous déclarons qu'il y a des services spécialisés en matière. La police est là, la NER est là, DGM est là. si nous avions trouvé l'ordre public, ils doivent témoigner. Je prends donc les services spécialisés en témoin.
Actualité Afrique Monde.
Commençons au Nigeria. La fièvre dénommée Lassa continue de faire des victimes. D'après les derniers chiffres du Centre national de contrôle des épidémies, 365 personnes ont été contaminées depuis le début de l'année 2018. 114 personnes sont décédées. Cette fièvre hémorragique transmise par les sécrétions d'un rongeur est endémique à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier au Nigeria, où la fièvre a été découverte en 1969. Mais cette année, les autorités doivent faire face à une épidémie sans précédent. Au Sénégal, pour la troisième fois, le procès de 32 Sénégalais soupçonnés d'activités en lien avec le terrorisme s'est ouvert aujourd'hui au tribunal de la capitale Dakar. Il s'agit d'un procès hors du commun, le premier de cette ampleur au Sénégal, renvoyé deux fois de suite à des problèmes de procédure judiciaire. Au cœur de l'affaire, un imam, Aliou Ndao, soupçonné d'avoir cherché à mettre en place un réseau djihadiste dans le pays. Ce 14 mars, le parquet a demandé un nouveau renvoi de ce procès car deux prévenus ne sont pas dans la procédure. En Angola, une nouvelle nomination fait couler beaucoup d'encre. Le général Fernando Garcia Miala a été désigné par le président João Lourenço, nouveau chef des services de renseignement. Celui-ci, à l'époque des chef des services de renseignement extérieur, avait été condamné à 4 ans de prison en 2008 pour insubordination envers le chef de l'État. Le général Miala avait été accusé d'avoir comploté pour assassiner le président Eduardo dos Santos lors d'une cérémonie militaire en 2006. Tentative à laquelle il n'avait pas pris part. À Londres, la première ministre britannique Theresa May a annoncé aujourd'hui une série de sanctions contre la Russie, dont l'expulsion de 23 diplomates donc, et le gel des contacts bilatéraux, jugeant Moscou coupable de l'empoisonnement d'un ex-espion russe sur son sol. L'ambassade de Russie à Londres a immédiatement qualifié la réaction britannique d'hostile, inacceptable et injustifiée. Terminons en Allemagne pour dire que Angela Merkel a été réélue chancelière aujourd'hui et a prêté serment. Les députés de Bundestag lui ont octroyé un quatrième mandat à la tête du gouvernement.